BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdocom. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Reworld Media qui vient de lancer le magazine Grazia. Vous le connaissez sans doute, marque iconique de la presse féminine française, mais c'est pas tous les jours qu'un nouveau magazine se lance, encore moins quand ce magazine a été absent des kiosques pendant 5 ans. Et pourtant, c'est le cas de Grazia. Mais alors, quelle place dans ce marché publicitaire un peu compliqué de la presse française, en particulier pour les magazines féminins? On va poser toutes les questions aujourd'hui à la directrice générale de Reworld Media. C'est tout de suite et c'est dans Hebdocom.
Hebdocom sur BFM Business.
Bonjour Elodie Breteau-Dofonteil.
Bonjour Sofiane.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hebdocom. 5 ans donc que les rotatives n'avaient pas tourné pour imprimer ce magazine Grazia qui était disponible uniquement sur le numérique. Pourquoi ce retour au papier ?
Eh bien, on a observé depuis quelques mois maintenant et quelques années une tendance sur le retour au temps long et finalement à un produit qui permet d'avoir, dans cette ère où tout est extrêmement digital, numérique, de l'instantanéité finalement, de retrouver un temps de pause. On a vu des maisons de luxe qui ont ouvert des librairies dans leurs magasins de mode. Voilà. Donc en fait, on a vraiment observé cette tendance qui dit que finalement, le papier, c'est un peu le nouveau luxe, le nouveau chic. Voilà. Donc on avait très envie, et très envie pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir une super directrice de la rédaction, qui est Céline Perruche, donc qui est venue nous rejoindre il y a un an pour prendre la direction éditoriale de Grazia, et notamment, donc vous venez de le dire, sur le digital. Et au bout de, je dirais, 3 mois, en fait, elle nous a dit, mais il faut qu'on fasse un papier. Voilà. Il faut qu'on fasse un magazine papier. Elle est arrivée donc avec Marin pour travailler la direction artistique, et ils nous ont présenté quelque chose au mois de mai l'année dernière. Et on s'est dit, banco, on y va. Parce qu'on a vraiment cru, parce que la proposition est différente de ce qui existe. Et ça, c'était pas facile, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'univers des magazines féminins, haut de gamme, luxe, il est quand même potentiellement assez encombré. Donc en fait, d'arriver avec quelque chose déjà sur une périodicité longue, hein, parce qu'on va sortir 2 numéros cette année. Donc il faut vraiment être en décalage fort avec finalement le volet digital et tout ce que je disais, c'est-à-dire une information qui a une durée de vie courte et ce temps long qu'on veut travailler tout en restant dans la tendance du moment.
Sauf qu'il y a de très bons directeurs et directrices d'autres rédactions qui sont plutôt dans le mouvement inverse, c'est-à-dire de réduire la pagination, voire réduire la périodicité. Là, c'est complètement contre-intuitif. On se dit, mais ça va pas dans l'économie des médias de faire ça.
Eh ben, c'est audacieux. Parce que chez nous, on aime l'audace, on aime tester des choses. Évidemment, on le fait dans une logique. Vous parlez d'économie ici, on est quand même sur une émission à un plateau d'économie.
C'est bien, mais que ce soit rentable, c'est mieux
du
quand même.
Du business, voilà. Ouais. Alors, tout ça est extrêmement bien piloté. Alors, le produit papier, c'est un investissement fort parce qu'en plus, on a fait des jeux à l'intérieur. Il y a des textures, il y a des films plastiques qui permettent de décoder des messages. Donc voilà, donc c'est un produit qui, en effet, coûte cher à faire. Qui est vendu cher, mais ça c'est notre modèle et qui va évidemment s'appuyer aussi sur les revenus publicitaires qui attendaient aussi avec impatience de le voir parce que Grazia c'est un réseau international, on est propriétaire de cette marque, mais c'est à la fois un ADN très global autour de la pop culture, de la mode, de la beauté, mais aussi des aspérités locales. Finalement, on fait des adaptations. Donc, le Grazia France n'est pas le même
c'est
que
pas le même
Grazia
que
italien. Exactement. Ouais. Déjà, c'est pas les mêmes périodicités, mais en plus, rien que le produit papier, c'est pas le même non plus.
Voilà. Prenons ce produit papier là. Je vous le pique. Quelle périodicité, vous l'avez dit, deux fois par an. D'accord.
Exactement.
Quel prix et combien de pages ?
Donc, il est à 6,90 €. C'est 80 000 exemplaires. Il y a 200 pages. Et on a une cinquantaine de pages de publicité sur ce premier numéro. Voilà.
Pourquoi deux par an ? Pourquoi cette périodicité ? Comment maintenir l'engagement des lecteurs quand on ne sort que 2 numéros par an ?
Alors, pour accompagner ce nouveau Grazia, On a sorti il y a 2 semaines de cela une newsletter qui sort le lundi, donc qui s'appelle Thanks God It's Monday, et donc qui va justement être dans cette même patte, cette même ADN, cette même direction artistique, mais avec des actus hebdo. Voilà, donc l'idée c'est de garder le lien avec cette newsletter, nos réseaux sociaux et notre site internet. Pourquoi deux ? Parce qu'on est quand même dans un univers qui est piloté par la mode, on va dire, sur Gradia, et c'est 2 saisons par an.
Donc c'est printemps-été, automne-hiver.
Automne-hiver, donc avec tous les grands sujets, les grandes tendances de saison. Là, vous verrez même, on a ressorti aussi sur de la beauté, par exemple, on a fait un peu le nouvel abécédaire de la beauté de la saison 2025, printemps-été. Bon voilà, on y découvre des tendances de fond, finalement, voilà.
Alors, en une de ce magazine, pour ce premier numéro, enfin, si on peut dire premier numéro, d'une nouvelle vie de Gradia, Charlotte Cardin, actrice, chanteuse, très connue outre-Atlantique, un peu moins en France, c'était le choix qui s'est imposé. Ça m'a un peu surpris, je m'attendais pas forcément à voir une star jeune, pas encore extrêmement connue en France.
Bah aussi, on a ce côté un peu décrypteur, hein, un peu voilà, nouveau talent depuis très longtemps. Ce qu'on voulait aussi, c'était avoir quelqu'un qui est justement dans plusieurs univers culturels, et vous venez de le dire, actrice, chanteuse. Donc en fait, c'est ça aussi en fait, Gradia. C'est pas forcément l'évidence de ce qu'on aurait pu imaginer, qu'on peut retrouver d'ailleurs en couverture d'autres magazines.
Mais qu'est-ce que ça veut dire de votre ligne éditoriale ? C'est-à-dire aller vers quelque chose de plus pop, de plus jeune ?
Alors, pop, c'est sûr, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment nous. C'est vraiment, encore une fois, la pop culture, c'est vraiment Gradia. Plus jeune, potentiellement aussi, parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec ces 4 dernières années sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, bah, finalement, on est aussi allé faire découvrir Gradia à des populations plus jeunes. Donc c'est vrai que quand on met en couverture aujourd'hui des artistes qui sont peut-être plus connus des moins de 30 ans, bah, on pense aussi pouvoir aller chercher cette audience-là.
C'est ce que je me suis demandé en parcourant le magazine Élodie Breteau de Fonteille. Finalement, qui est la nouvelle lectrice de Gradia ? Est-ce que c'est la lectrice peut-être plus jeune qui peut vous suivre sur les réseaux sociaux, notamment avec tous vos contenus, ou est-ce que c'est la lectrice de Gradia d'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, qui va revenir ? Comment vous avez redéfini cette cible ?
Alors, on pense que ça peut être les deux. Et moi, j'ai pas mal regardé ce week-end, justement, tous les commentaires, les posts sur les réseaux sociaux. Même moi, j'ai posté des choses personnelles. Et en fait, je crois qu'on va pouvoir avoir un peu des deux. C'est-à-dire que, faut pas oublier la notoriété de Gradia en France, hein, c'est 15 ans. Il y a eu énormément d'investissements sur cette marque fait dès son lancement. Et je sais qu'à chaque fois, il y avait beaucoup de nostalgie. Mais c'est dommage qu'il n'y ait plus le Gradia Hebdo. Donc, on pense qu'il va vraiment y avoir aussi cette traction autour de cette notoriété de la marque, à la fois sur des populations qui ont 40-50 ans, et puis le partage avec leurs filles, finalement, aussi, qui vont avoir 20 ans. Voilà. Donc, ce côté peut-être transgénérationnel.
Mais il y avait peut-être un manque de Gradia, mais il y a surtout peut-être une saturation du marché des mags féminins. Comment est-ce que vous allez réussir à vous repositionner sur un marché qui est déjà quasi saturé ?
Je pense que je reviens sur cette histoire de périodicité. C'est qu'en fait, les gens achètent peut-être moins de magazines, mais ils veulent quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, quand on achète un hebdomadaire, on va dire, en fait, en 10 minutes, ça y est, je l'ai feuilleté. On n'a pas forcément le temps de le faire tous les week-ends non plus. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de quand on est sur cette périodicité plus longue, de pouvoir aller le lire, le relire, le reprendre. En plus, la variété des sujets, donne à lire. On a tout un calendrier aussi sur tous les événements culturels, enfin, vraiment, qu'on adore sur ce premier semestre. Donc, on va pouvoir réserver des choses. Donc, la fonction n'est pas la même. La périodicité change tout.
Je me suis dit, 2 numéros par an, selon les collections, est-ce que c'est pas aussi pour vendre de la pub, finalement, et essayer de la vendre plus cher que ce qui est possible de la vendre sur le digital ?
Après, il y a des tarifications marché, hein, quand même, qui existent sur le sujet du papier. Donc, c'est pas pour la vendre plus cher. Le modèle économique du papier et le modèle économique du web, vous le savez, sont extrêmement différents. Oui, c'est un modèle publicitaire, mais c'est aussi pourquoi ? Pour pouvoir proposer des choses un peu innovantes aussi dans le magazine. On se donne finalement ce temps de pouvoir faire des choses créative, jouer avec des textures. Je vous parlais des calques là, donc à l'intérieur on a une OP avec ce calque. Donc en fait c'est vraiment ça aussi la volonté. C'est on a quelques opérations avec des marques, même des choses qu'on n'attendrait pas, comme du Motorola par exemple où on met en avant un téléphone qui est très dans la mode, dans le design. Bon voilà, donc et c'est plutôt ça l'idée, c'est de proposer des vraies expériences engageantes au final derrière pour le lecteur avec des marques. Voilà.
Et en même temps, la question c'est combien de pages de publicité, jusqu'où on peut accepter, le lecteur peut accepter de lire un magazine. 50 pages sur 200, vous m'avez dit, de publicité. Est-ce que vous êtes dit, c'est peut-être un peu trop, on va réduire pour les prochains numéros ou pas du tout?
Non, là on est dans un ratio tout à fait correct.
D'accord. Et sur quoi repose de manière générale la rentabilité de votre formule? C'est la publicité avant tout ou est-ce que c'est plutôt la vente au numéro, l'abonnement? Comment vous allez faire?
La vente au numéro va être un pilier, mais le premier pilier va être le modèle publicitaire. Ce qui est le cas pour toutes ces familles de presse. Hein. On se le dise, on est vraiment sur des modèles plutôt publicitaires.
Avec des annonceurs plutôt haut de gamme, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Qui vont
des
venir...
annonceurs. Alors, le cœur de cible, ça va être des marques de luxe, hein, que ce soit dans la mode ou la beauté. Mais là, on a aussi des constructeurs auto, du high-tech. Voilà, donc c'est assez, ça peut être aussi assez varié. Parce que cette cible, finalement, est assez recherchée.
Ce qui pose la question plus généralement de l'équilibre entre la rentabilité et la qualité journalistique. On parle de Gradia parce que c'est la sortie, mais c'est le cas pour tous les journaux que vous avez, tous les magazines que vous avez. Ça doit être un petit peu compliqué, cette frontière parfois peu étanche entre la publicité et le contenu rédactionnel.
Je pense pas, enfin sincèrement, Céline c'est une grande professionnelle, c'est une perruche. Évidemment, on se parle tous les jours parce que le produit est un produit papier de toute façon de presse féminine existe avec la pub. C'est-à-dire que si demain vous prenez un magazine féminin, vous enlevez les pubs, même le lecteur, en fait, il y a un truc qui n'ira pas. Il va manquer quelque chose. Parce qu'en fait, ça fait intégralement partie du contrat de lecture. Donc Céline est une grande professionnelle, donc... Et aujourd'hui, toute l'équipe avec laquelle elle a bossé, franchement, c'est des super plumes, des super photographes. Enfin voilà, l'équipe, elle est top. Elle s'est entourée vraiment d'une équipe hyper pro, hyper carrée. Donc en fait,
c'est
non, on n'a pas
leur
eu de sujet.
Contenu qui non, peut poser question que la frontière entre la publicité et les contenus dont on n'a aucun doute sur le fait qu'ils soient purement journalistiques.
En tout cas, là, on a des OP qui sont vraiment des OP dites séparation spéciale dedans, qui sont très bien identifiés comme étant des partenariats.
Mais vous avez raison, vous m'amenez à cet autre sujet. Les partenariats, ce qu'on appelle le brand content, ça a été l'un des griefs faits un temps à Reworld. Cette frontière parfois peu étanche entre les deux, qu'est-ce que vous répondez voilà, quand on a une régie qu'on pilote de ce groupe-là, il faut trancher entre des contenus journalistiques, des contenus rédactionnels et parfois du contenu pour des marques. Est-ce que c'est pas difficile pour le lecteur encore de s'y retrouver et comment on s'y adapte?
Bah en fait, c'est clairement identifié, hein, et aujourd'hui pas plus chez nous qu'ailleurs, les frontières là dont vous parlez qui pourraient être un peu poreuses le sont en fait. Après on est dans un monde qui évolue, on est dans un monde où aujourd'hui beaucoup de journalistes aussi travaillent pour des marques on va dire sur leur temps libre. Donc en fait quand on fait des OP, c'est identifié, ce sont des partenariats et je pense qu'aujourd'hui le lecteur est aussi un petit peu aguerri de toute façon sur ces sujets-là.
Il est aguerri, mais est-ce qu'un temps, vous comme d'autres, on n'a pas pu essayer quasiment de tromper le lecteur avec parfois des décors qui ressemblaient quand même vraiment énormément au contenu rédactionnel et qui pouvaient, en prenant la même police d'écriture, etc., laisser penser que c'était du contenu rédactionnel?
En fait, c'est identifié encore une fois comme étant des partenariats. Donc en effet, quand on travaille des opérations, et encore une fois, c'est le cas. Là, on parle du magazine, hein, du papier. C'est le cas dans tous les magazines papier. Oui, on travaille des chartes déjà pour que ce soit un peu plus joli dans l'intégration en termes de graphisme dans nos magazines. Mais c'est toujours identifié comme étant des partenariats.
Comment vous, plus globalement, vous garantissez l'indépendance du contenu éditorial au sein des titres du groupe Gradia et les autres?
C'est ce que je vous disais en préambule, en fait. D'un côté, on travaille, nous, avec nos rédactions, parce que c'est important et que parfois, ça arrive qu'il y ait des annonceurs qu'on se dise « Non, en fait, ça ne va pas du tout », même sur des annonceurs sans parler d'opération spéciale, mais qui seraient complètement décalés par rapport à nos lignes édito.
C'est-à-dire que c'est leur marque elle-même ou le contenu qu'ils essaient de promouvoir?
Non, la marque, c'est la marque, le positionnement, l'image, enfin voilà, donc je rentrerai pas dans plus de détails là-dessus. Et après, bah parfois quand il y a des demandes justement d'opérations spéciales, bah on implique aussi les rédactions pour qu'ils soient à l'aise avec ce qu'on va faire en publicité finalement. Voilà. Donc en fait, enfin nous ça se passe super bien et c'est plutôt sain en fait, vraiment. Et pour à la fois quand on discute avec les rédactions et nous les équipes et avec moi des équipes qui arrivent aussi d'autres univers, ça se passe de manière saine et respectueuse. En fait, chacun respecte le travail de l'autre et je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi.
Autre point de crispation, et c'est l'occasion peut-être d'y répondre, des papiers d'articles qui sont parus, qui datent parfois de quelques années, sur la gestion RH. Qu'est-ce qui a été mis en place par le groupe Reworld de manière générale pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces pratiques managériales qui ont été contestées, disons, dans certains articles de presse?
Alors, pratiques managériales, je ne suis pas sûre qu'on puisse généraliser ce genre de choses. Vous parlez de choses qui sont parues il y a quelques années.
Qu'est-ce qui a changé du coup?
Bah, en fait, on a un accompagnement. Je suis pas forcément là pour entrer dans le détail des sujets RH au sein du groupe. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais parler pour mes équipes. On accompagne nos collaborateurs au quotidien, on les fait grandir, on leur permet d'évoluer aussi. Enfin voilà, on est vraiment dans quelque chose. Moi, qui me semble extrêmement positif. Moi, les équipes sont plutôt épanouies chez nous, donc j'ai pas trop de sujets là-dessus.
Il y a la question aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle se pose partout et peut-être encore plus dans votre groupe ou dans certains groupes de presse. Est-ce que jusqu'où on place le curseur, la frontière, est-ce que là, vous le voyez plutôt comme un avantage qui peut accompagner ou une limite par rapport à l'écriture, notamment de contenu rédactionnel? Vous en êtes où, l'utilisation de l'IA?
Alors, on teste beaucoup de choses. Je pense qu'on avait été les premiers à faire une couverture full IA. C'était la direction de la rédaction de Réponse Photo qui avait voulu faire ça. C'était déjà il y a 2 ans et demi. Donc, pour un magazine photo, de faire une couverture full IA, c'était quand même assez osé. Donc, en fait, on a donné une grande liberté aux rédactions d'essayer des choses un peu par eux-mêmes. Et là, je dirais qu'on commence un peu à structurer les choses. Donc... Évidemment, il y a plein de tâches qui vont être optimisables et qui vont faire gagner du temps pour finalement avoir plus de temps sur des tâches à plus de valeur ajoutée. Donc ça, c'est pour la partie édito.
Vous pensez à quoi, par exemple, sur des choses éditoriales? Ça peut aller jusqu'à la rédaction de petits filets dans des magazines?
Alors, ça peut aider. Pour faire des résumés, donc ça peut aider sur un certain nombre de choses, mais après il y a toujours de toute façon une relecture, un retravail de la titraille, parce que si on prend le papier, la titraille c'est hyper important, c'est-à-dire qu'et une IA, les jeux de mots, ils vont pas forcément savoir les faire, voilà.
Et là on n'en est pas là pour l'instant.
Non, on n'en est pas là. D'accord. Non, mais après des tâches à moindre valeur ajoutée, déjà aller sélectionner des peut-être aller sourcer de l'information, et après de se dire j'ai tout ça, je pars de là, comment je vais écrire demain mon article, mon papier.
Mais pour l'instant, vous n'avez pas fait deux colonnes quelque part, l'utilisation de l'IA avec le nombre d'emplois supprimés à côté?
Ça, c'est un raccourci qui va un peu vite. Justement, en fait, nous, on pense que ça va donner plus de temps pour des tâches à valeur ajoutée.
D'autres détracteurs vont vous dire que vous êtes finalement un groupe trop puissant. Un groupe hégémonique avec beaucoup de titres à l'intérieur. Vous en avez récupéré un certain nombre. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions qui se posent sur votre omnipotence, si on peut dire, en tant que groupe de presse?
Alors, il y a des groupes qui sont encore... plus gros que nous de manière, je dirais, capitalistique. Donc après, c'est vrai que nous, on est encore un groupe indépendant. En termes de nombre de marques médias, oui. En effet, nous sommes le premier groupe média en France. Après, extrêmement diversifié. Voilà. Donc je pense que c'est important. On a 80 marques médias. Je ne pense pas que ça nous pénalise. Bien au contraire, c'est qu'en fait, on a une diversité, encore une fois, dans nos contenus, dans la typologie de nos médias, que ce soit des médias papier, des médias web, des médias réseaux sociaux ou encore des chaînes télé aussi. En fait, c'est plutôt une force et aujourd'hui, On est plutôt fiers en fait d'avoir été un précurseur.
Une force pour vous, c'est sûr.
Dans la consolidation aussi de ce marché. Et on est suivi maintenant. Hein. Vous le voyez bien, il y a eu énormément de changements de main capitalistiques. Et ce n'est pas fini. Voilà.
Donc ceux qui disent on est trop fort, vous leur dites soyez aussi puissants que nous. Et c'est votre problème.
Et on a des groupes en face de nous qui sont très forts et très puissants. Et pardon, j'insiste aussi sur quelque chose. C'est que si... nous n'avions pas fait tous ces rachats ces dernières années, il y aurait beaucoup de médias qui n'existeraient plus aujourd'hui. Et ça, je pense, enfin, il faut le défendre. On est un groupe média français, indépendant. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier de ça aussi, non, dans le contexte général.
Quelques questions pour terminer, courtes. Si vous deviez résumer l'ADN de Reworld aujourd'hui, ce serait quoi, en une phrase, par exemple?
C'est de l'innovation pour produire des médias de qualité qui sont dans le quotidien des Français.
Là, je parle à la patronne. Comment vous voyez l'évolution du modèle économique de la presse mag dans les 5 années à venir?
Il va falloir trouver le bon équilibre entre comment on continue de tracter des annonceurs sur le papier. Mais on voit qu'il y en a qui sont très, très attachés. Il y a certains secteurs d'activité pour lesquels ça reste un média pilier. Je pense qu'il faut qu'on arrive aussi toujours avec des bons produits. Voilà. Et ça, Egradi en est l'exemple. On a lancé aussi Icon il y a un an. Hein, donc, nous, franchement, c'est vrai que dans le contexte actuel, on peut se dire waouh, c'est challenge d'aller lancer un magazine. Mais on y croit et c'est plutôt successful. Donc, en fait, il faut continuer à faire de la qualité. Voilà. Il faut continuer à faire de la qualité. Il y a des familles de presse qu'on avait dit il y a 10 ans, elles n'existeraient plus. Elles continuent de vendre des millions d'exemplaires toutes les semaines. Voilà, c'est. Il faut ajuster le produit aux besoins. Mais en tout cas, nous, on travaille. Différemment, en plus vous l'avez dit, hein, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de marques, donc on va pas travailler un modèle identique, un business model sur Gradia que sur Auto Plus ou encore que sur Téléstar ou Psychologie. Voilà. Donc en fait, on aura aussi une approche différente, mais en tout cas, il faut continuer à faire un bon produit qui plaît à son lecteur, parce que si on n'a pas de lecteur, on n'a pas d'annonceur non plus.
Voilà. Avec de nouveaux titres potentiellement dans le groupe, des rachats, des...
On est dans un univers des médias qui bouge. Alors, des lancements, pour l'instant, non.
Vous n'avez pas d'annonce à nous faire, là, aujourd'hui.
Non, mais déjà, on en a quand même fait deux en un an. Voilà, il n'y a pas d'autre groupe qui a fait ça, hein, encore une fois. Et après, vous le connaissez, le marché, il est en consolidation. On fait partie des acteurs qui consolident, comme d'autres acteurs aujourd'hui dans les médias en France. On est quand même plusieurs gros groupes. Et encore une fois, je disais, il y en a aussi qui sont capitalistiquement beaucoup plus gros que nous. Donc après, le marché.
Vous regardez. Il y a des titres en particulier que vous regardez.
Non, mais aujourd'hui, on a la chance, c'est vrai, quand il y a des dossiers qui de volonté de vente sur le marché, les dossiers passent chez nous. Après, on regarde ou on ne regarde pas. Mais en tout cas, faisant partie des acteurs qui consolident le marché, en effet, il peut y avoir des opportunités, mais qu'on étudie ou pas, encore une fois, tout ça.
Alors, donc, Gradia numéro 1, c'est écrit, hein, même si c'est la ressortie de
oui,
Gradia.
Oui, on est sur une autre publicité, mais c'est le Gradia numéro 1, parce qu'il n'est pas référencé de la même manière aussi dans la distribution, dans les kiosques. C'est pour ça qu'on est vraiment sur un numéro 1.
Donc, à retrouver en kiosque, le numéro printemps-été.
Hebdo.com sur BFM Business.